Comme les transporteurs professionnels, assurez vos marchandises chez Sounou Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une urgence de santé publique aux États-Unis depuis près de 2 ans. Et l'on constate aujourd'hui en France l'inquiétante augmentation de la consommation d'antidouleurs à base d'opioïdes, mésusage, intoxication, hospitalisation et même décès liés à la prise d'antalgiques, tramadol, oxycodone, fentanyl, des noms qui ont fait la une des journaux car parmi les victimes de ces dérivés naturels ou synthétiques de l'opium, on trouve des personnages publics, des artistes de premier plan. Alors peut-on aujourd'hui parler d'une crise des opiacés en France ? Dans un récent rapport, l'Agence nationale de sécurité du médicament soulignait l'augmentation des abus, mais sans tenir un discours alarmiste pour autant. Et une structure de vigilance, l'Observatoire français des médicaments antalgiques a été créé en écho à cette crise de portée internationale. Phénomène mondial, car ces antidouleurs détournés de leur usage inquiètent de Vancouver à Yaoundé. Au-delà des réseaux de distribution officiels des pharmacies, un trafic international s'est mis en place, du Mexique à la Chine, via Internet notamment. Et au-delà de ces constats, cette crise des opioïdes interroge sur la gestion de la douleur. Elle interroge sur les responsabilités des prescripteurs, sur les politiques commerciales des grands groupes pharmaceutiques, sur la réactivité des autorités de santé, la crise des opiacés. Si vous avez des questions, témoignages à apporter, appelez-nous, appelez le 33 84 22 75 75. La dépendance aux antidouleurs, aux médicaments en général, le problème des douleurs chroniques. Pour en parler aujourd'hui avec nous, docteur Carole Sereni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, co-responsable de la consultation multidisciplinaire de la douleur chronique à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et vous avez signé, docteur Carole Sereni, l'ouvrage « Douleurs chroniques et opiacées » aux éditions du CERF. Également en studio avec nous, Juliette Boudre, bonjour.
Bonjour.
Votre fils Joseph a succombé à une overdose d'opiacés et d'anxiolytiques à l'âge de 18 ans. Les ravages de l'addiction aux médicaments dont vous témoignez dans le livre « Maman ne me laisse pas m'endormir » publié aux éditions de l'Observatoire. Détournement de l'usage des antalgiques, phénomène international, on le disait, illustration au Cameroun où l'on va joindre tout à l'heure le docteur Jean-Louis Jon, psychiatre à l'hôpital général de Douala. Le docteur Jon est spécialisé dans la prise en charge des patients alcoolodépendants et usagers de drogue. En fin d'émission, on va retrouver la chronique de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Alors on entend ces témoignages de plus en plus nombreux, hein, des patients qui racontent un traumatisme, un accident, une maladie, un trouble. Et puis pour gérer ce trouble, il peut s'agir d'une douleur qui devient chronique, eh bien ce trouble va devenir quasiment secondaire, puisque c'est finalement la dépendance aux remèdes qui semble, au bout du compte, poser le plus de problèmes. Docteur Carole Sereni, on va au cours de cette émission parler bien sûr de la prise en charge de la douleur. Mais si vous le voulez bien, dans un premier temps, est-ce qu'on peut fixer certains repères pour commencer sur les produits ? On entend, j'ai utilisé les deux termes dans mon introduction, opiacé, opioïde. C'est quoi exactement la différence ?
En fait, il n'y a pas de différence entre opiacé et opioïde. Opioïde, c'est le terme anglo-saxon qui a été du tout utilisé en France. Opiacé, c'est le terme français. Dans tous les cas, ce sont des produits qui sont analogues à l'opium, analogues à la morphine. Alors, il y a des opiacés qui sont dérivés directement de l'opium, comme la morphine, et il y a des produits de synthèse comme le tramadol. Mais dans tous les cas, c'est le même fonctionnement dans le cerveau, c'est-à-dire que ce sont des produits qui prennent la place des endorphines naturelles globalement et qui remplacent notre système de défense de la douleur, qui le bypass en quelque sorte, le shunt, et du coup, on n'a plus de système de la douleur fonctionnel, on est complètement dépendant de ces produits qui proviennent de l'extérieur, et plus on les utilise et plus on s'y habitue.
Et pour les professionnels de santé, en pharmacologie, il existe différents paliers, c'est bien cela, docteur Sereni ?
Alors, il y a ce qu'on appelle les opiacés forts et des opiacés faibles. L'opiacé fort de type de base, c'est la morphine, et le fentanyl, par exemple, mais par exemple l'héroïne aussi est un opiacé fort. Les opiacés faibles, c'est des produits comme le tramadol ou le codéine. Mais en fait, ce sont des produits, encore une fois, dont le mode de fonctionnement est analogue.
Alors, du côté de la fréquence des prescriptions, docteur Carole Sérigny, au classement des ventes de médicaments, même si c'est un petit peu vulgaire de parler de classement à la matière, mais c'est bien une réalité commerciale, financière et économique, et c'est important dans ce dossier, les antalgiques occupent les places de tête en France et un petit peu partout dans le monde.
Ce sont les médicaments les plus vendus et on ne peut absolument pas ignorer les répercussions économiques considérables. Et en particulier aux États-Unis, la crise des opiacés a été largement fabriquée par l'industrie pharmaceutique qui n'a fait non seulement aucun effort pour réduire et limiter le nombre de ventes, mais au contraire, ils ont incité les gens à consommer parce que ça rapporte énormément d'argent.
Alors quand on parle de ces médicaments, c'est un petit peu bizarre, mais on parle de beaucoup de noms. On a quasiment des fois l'impression qu'on parle de marque, d'ailleurs, en la matière. Ces cachets dentalgiques, Juliette Bourde, vous avez dû apprendre à les distinguer. Vous avez été contrainte de vous familiariser avec tout ça quand ils ont fait un jour irruption dans la vie de votre fils. Comment est-ce que ça commence ?
Ça commence avec un joint qu'il a fumé, qui a déclenché chez lui une attaque de panique. Et le médecin de son collège l'a soigné avec un Xanax, qui est donc une autre famille de médicaments. Ce sont les benzodiazépines, les anxiolytiques, plus simplement.
Donc c'était ni un traumatisme, ni une douleur chronique.
Absolument
qui, pour
pas.
La première fois, a conduit à cette prescription. Et vous, à ce moment-là, vous êtes informé que ce médicament est arrivé dans l'organisme de votre garçon ?
Non. Il rentre à Paris, il était au collège en Angleterre, il rentre à Paris, il se sent pas bien, donc il me demande d'aller voir un médecin et un psychiatre. Mon médecin l'envoie chez le psychiatre, qui lui-même lui represcrit à nouveau du Xanax pour qu'il dorme mieux, pour qu'il ait moins d'angoisse, etc. Je découvre ça à ce moment-là. Je connais ni les médicaments de cette famille-là, ni le problème de Joseph.
Quand il revient de ce premier séjour avec une prescription, il est déjà dépendant ?
Je pense qu'il est déjà dépendant. En tout cas, il en aime l'effet, probablement, et il cherche à en obtenir plus, ce qui est une forme de dépendance, oui.
Et avant, il y avait eu un usage de cannabis. Vous aviez conscience, à ce moment-là, d'une certaine tendance à l'addiction de votre garçon ?
Je dirais pas jusque là parce qu'il a à ce moment-là il a 16 ans et que il y a beaucoup de jeunes malheureusement qui fument et donc on surveille, on le teste déjà à l'époque beaucoup, on vérifie, on punit quand c'est positif, enfin on fait notre rôle de parent mais je pense pas à l'addiction non.
Docteur Carole Sérigny, dans votre livre, vous écrivez que les articles scientifiques des années 80 à 1980 insistaient sur la relative rareté du phénomène d'addiction lorsque les opiacés étaient utilisés contre la douleur. Alors quand on voit ce qui se passe maintenant, on peut dire qu'on s'est trompé ?
On peut dire qu'on s'est trompé, oui, effectivement. Le problème, c'est que comme beaucoup de travaux scientifiques, ça a été fait sur une période courte. Et en plus, ça a été fait sur un nombre relativement limité de gens. Prenez 1000 personnes. Si sur ces 1000 personnes, vous en avez 50 qui vont rentrer dans la spirale de l'addiction et avoir leur vie complètement gâchée à cause de ça, si vous avez votre échantillon à 80 personnes, vous pouvez n'en avoir eu aucune. Vous êtes passé complètement à côté. Mais ces 50 personnes, elles existent. Et 50 sur 1000, c'est énorme. Et après, ça se transforme en milliers de personnes et centaines de milliers de personnes aux États-Unis qui sont dépendants et en quantité de décès absolument phénoménal.
La prise de conscience, elle remonte à quand dans le corps médical ?
Je crois qu'elle ne remonte pas.
Elle est en cours.
Elle est en cours. Je pense qu'actuellement encore, on est bien loin de prendre conscience de non seulement des dangers de ce type de médicaments, mais aussi de leur inutilité dans beaucoup de cas. Et c'est ça qui est le plus désolant, c'est qu'on distribue ces médicaments très largement, alors qu'en fait, ce ne sont pas de bons traitements de la douleur chronique.
Docteur Carole Sérigny, lutte contre la douleur, lutte contre l'angoisse, l'insomnie aussi, c'est une question qui revient au cours de cette émission. Quand on prescrit ce genre de remède, est-ce qu'on doit impérativement, je sais que vous allez me dire oui, tenir compte du profil du patient ?
Ah, c'est très très important, bien évidemment. C'est sûr que quelqu'un qui a un profil dont on voit qu'il est fragile, donc il a une tendance addictive, quelqu'un qui a consommé de l'alcool, du cannabis, qui fume, qui a des problèmes de dépression, il faut être super prudent. Et je pense qu'actuellement, en tout cas pour la douleur aiguë, je suis même certain qu'on ne fait aucune vérification avant de distribuer de la morphine largement et sans aucune retenue.
Et c'est pour ça, sans juger, hein, dans le cas de Joseph, le fils de Juliette Bourde, un adolescent qui l'ont prescrit des anxiolytiques, qui plus est dans le milieu scolaire, ce qui se fait pas du tout en France, hein, faut le dire clairement, ça ne se fait pas dans la médecine scolaire française. C'était outre-Manche. Est-ce que c'est quelque chose de concevable quand on est médecin, ces anxiolytiques sans, on va dire, une consultation psy préalable à un ado de 16 ans? C'est quelque chose qui paraît pour le moins étonnant.
Je pense que, avec les jeunes, avec les adolescents dont on sait qu'ils ne supportent pas les psychotropes aussi bien que les adultes, et qu'en plus les psychotropes sont souvent inefficaces chez eux, beaucoup moins efficaces que chez les adultes, il faut être super prudent. Et c'est vrai que la prise en charge de l'anxiété chez l'enfant et chez l'adolescent, avant tout, c'est par des moyens non médicamenteux. Mmh. C'est la psychothérapie, c'est l'hypnose. Tout ça, ça marche bien, par contre. Bien ça sûr. Marche très bien chez les jeunes.
Alors, dans le cas de la douleur chronique, hein, c'est l'objet central de votre ouvrage, docteur Carole Serini, déjà, il y a un vrai problème dans l'opinion publique de définition, de perception, avec pas mal de personnes qui pensent qu'il s'agit, en fait, de douleurs psychosomatiques. Et vous rectifiez le tir, justement. C'est quoi les grandes maladies, les grandes pathologies qui sont les plus fréquemment associés à ces douleurs chroniques?
Alors, il y a deux types de pathologies qui sont à l'origine de douleurs chroniques. D'une part, des maladies de la douleur elle-même, comme la migraine, par exemple. La migraine, on n'a rien dans la tête, mais on souffre horriblement et ça peut devenir chronique. La fibromyalgie, qui a été un peu mise en exergue avec l'histoire de Lady Gaga, c'est sûr qu'on voit que tout le monde peut souffrir de fibromyalgie, même des gens qui réussissent très très bien dans la vie.
Même si une partie du corps médical reste très sceptique à ce sujet.
Oui, mais ça, je pense que ça évolue quand même et que les gens qui s'occupent de douleurs, eux, ils savent que ça existe. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc il y a des maladies comme ça, et puis après il y a des maladies qui, pour la plupart des gens, sont transitoires, mais qui durent, comme par exemple la lombalgie. Vous avez un lumbago, la plupart des gens, 90% des gens vont guérir vite. Et les 10% autres risquent de tomber dans la lombalgie chronique, qui est une maladie qui est beaucoup, beaucoup plus ennuyeuse. Les douleurs post-opératoires, vous avez été opéré, c'est pareil, la plupart des gens, ça se passe très bien. Mais il y en a qui vont continuer à souffrir. Alors, il y a encore des douleurs plus spécifiquement féminines, comme les douleurs des règles, bien sûr. Et bon, ça, c'est encore une autre catégorie. En fait, et puis les douleurs post-traumatiques, bien sûr, c'est très important. Quel que soit le traumatisme qu'on a pu avoir, on est à risque de douleurs chroniques.
Est-ce que vous diriez que c'est en augmentation? Est-ce qu'on a des études sur lesquelles s'appuyer, ou c'est quelque chose de diffus qu'on ne peut pas quantifier?
Alors, malheureusement, les études, on ne les a pas. Et ça, c'est clair, et on n'a pas les chiffres, et c'est très, très difficile de savoir si ça augmente. Dire que dans l'histoire, il n'y a pas eu de gens qui ont laissé des témoignages de douleurs chroniques, ce serait absurde. Il y a une quantité d'écrivains qui ont eu des douleurs chroniques, qui les ont racontées. Donc, ça a existé à toutes les époques. Est-ce que c'était plus fréquent que maintenant, ou moins fréquent? Ça, je pense que personne ne peut vous le dire.
Alors, vous êtes neurologue, mais vous soulignez bien dans votre livre, on va en parler tout à l'heure, avec l'approche multidisciplinaire qui est associée à la douleur, à quel point cette douleur touche à l'intime, et puis à quel point elle dépend du contexte social, familial, du soutien, de l'entourage. C'est pas simplement le corps qui parle, c'est aussi tout ce qui va entourer cette douleur est directement lié, on va dire, à un environnement.
La douleur chronique, c'est un phénomène qui se crée dans le cerveau. C'est quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire que la douleur prend possession du cerveau. Elle prend possession du cerveau parce qu'elle vient de la douleur aiguë, c'est-à-dire qu'il y a eu des influx nerveux qui indiquent qu'il y a une douleur qui arrive là, mais aussi parce que le cerveau est vulnérable à un moment donné. Il est vulnérable parce qu'on est tout seul, parce qu'on est triste, parce qu'on est une femme, malheureusement c'est le cas, parce qu'on a une tendance addictive, pour plein de raisons. Et de ce fait, quelle que soit l'origine, c'est comme le virus informatique. Vous avez un virus qui s'installe dans votre ordinateur et plus rien ne marche. La douleur chronique, c'est pareil. Ça s'installe dans votre cerveau et vous ne pouvez plus penser à autre chose. Et ceci n'a rien à voir avec une faiblesse. Ce ne sont pas des gens faibles, ce ne sont pas des gens qui n'ont rien à faire. Ça peut arriver à n'importe qui.
Alors cette grande vulnérabilité, hein, une forme de mal-être peut-être aussi chez votre fils, qui appelait donc une réponse, Juliette Bourde, cette dépendance, vous diriez qu'elle s'est installée en combien de temps? Est-ce que ça a été quasi immédiat après ce premier cachet, où il a fallu davantage de temps pour que, on va dire, les doses, les quantités augmentent, et que là, il y ait vraiment la conscience avec une incapacité de se lever le matin, une journée quand même complètement bizarre pour un ado de cet âge? Au bout de combien de temps vous dites là, il y a un énorme problème et il faut une réponse médicale?
Quelques semaines, vraiment pas très longtemps. Il est rentré, donc il avait déjà eu ses prescriptions. Et puis on a vu ce psychiatre à Paris qui lui en a redonné pour un mois, puis pour trois mois. Très vite, j'ai vu que les plaquettes disparaissaient et qu'il en prenait plus qu'il n'aurait dû. Donc très très vite.
Donc avec le psychiatre, vous lui aviez souligné la question de la dépendance, et cette question de la dépendance, elle a été, la réponse a été des prescriptions. Comment ça se passe exactement?
Non, ça a été souligné après la prescription, puisque je me suis rendu compte que les plaquettes disparaissaient une fois qu'il les avait prescrites.
Vous pensiez au début, en tant que maman, ça va le soulager, il va aller mieux.
Moi, je faisais confiance à ce médecin, en fait. Je débarque, je sais pas du tout comment se soignent ces crises d'angoisse ou ces crises d'adolescence, qui finalement sont pas graves, effectivement, et elles peuvent passer avec, comme le disait le docteur, de l'hypnose,
de thérapie.
Oui, de la thérapie, de l'hypnose, du sport, une passion. Enfin, il y a des tas de choses à faire
avant
de donner
des pilules. Vous diriez qu'à l'époque, vous étiez démunie?
Oui. Oui,
complètement,
oui.
Comme le soin énormément de parents, de toute façon.
Voilà, absolument. Et puis c'est vrai que ces médecins, aujourd'hui, j'ai pas forcément de la colère contre eux, parce que j'en parlais avec le docteur, ils ne sont pas formés là-dessus, sur la dépendance et sur les effets secondaires de ces médicaments. Ils ont très très peu de cours sur les années d'études qu'ils font, donc en fait ils en savent rien. Le seul problème, c'est qu'ils le prescrivent beaucoup trop rapidement et presque systématiquement quand il y a quelque chose qui va pas.
Alors vous restez avec nous, hein, mesdames, on va tout de suite rejoindre le Cameroun. On rejoint le docteur Jean-Louis Jon. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychiatre à l'hôpital général de Douala, spécialisé dans la prise en charge des patients alcoolodépendants et usagers de drogue. Alors, tout à l'heure, avec Madame Bourde, on parlait de ces benzodiazépines. On a cité le nom du fentanyl en début d'émission. Et à Douala, eh bien, c'est un autre produit, un autre antidouleur qui aujourd'hui est fréquemment détourné de son indication. Il s'agit du tramadol.
Oui, alors, oui, nous avons des gros problèmes ici avec une substance qu'on appelle dans la rue du tramol, mais en fait c'est du tramadol. Mm-hmm. En usage médical, il est utilisé à des faibles doses, mais l'usage qu'on en fait dans la rue, vraiment ce sont de très fortes doses, des doses multipliées par 5 à peu près, et qu'on trouve même plus dans, on n'achète plus dans les pharmacies, mais c'est l'usage courant dans la rue, c'est tout le monde qui le vend. Ce sont même les élèves qui ont pris, qui le vendent à leur congénère, et voilà comment nous avons ce problème qui explose dans notre cité capitale, dans notre cité économique.
Docteur Jon, il est pris comment ce tramadol par, on va dire, ces jeunes dans la rue à Douala?
Oui, c'est un médicament qui est consommé, qui est pris par voie orale, et qui est facile à dissimuler, parce que comme ce sont des comprimés, on peut le mettre dans les boissons, on peut le mettre dans le sandwich, on peut le consommer comme on veut. On l'a même appelé dans la rue la drogue de l'impertinence et de l'arrogance. Parce que lorsque les jeunes les prennent, ils pensent qu'ils sont invulnérables, ils n'ont presque plus de douleur, ils sont très psychostimulés, et ça crée d'énormes problèmes sur le plan social.
Ils les achètent par des revendeurs qui ne revendent que du tramadol, ou dans des pharmacies par terre, dans des marchés, à côté par exemple de médicaments, de faux médicaments, d'antibiotiques, tutti quanti, tous ces médicaments variés?
Mais en fait, on vend un peu partout. Ceux qui sont au niveau des... Ceux qui vendent au pourtour des écoles, en réalité, ils vendent ça, et ils vendent avec le tabac, avec un certain nombre de substances, des bonbons, et c'est ça qui passe le plus.
C'est complètement banalisé. C'est complètement banalisé.
C'est très banalisé.
Ça coûte pas cher.
C'est par rapport aux saisies, souvent record, qu'on fait, qu'on découvre vraiment le gros phénomène.
Est-ce qu'il y a une certaine catégorie de population qui est concernée? Vous disiez ces jeunes, les jeunes en milieu urbain. Est-ce que ça déborde justement sur d'autres catégories?
Oui, ça déborde sur d'autres catégories, parce que Vous savez que nous avons des phénomènes, par exemple, au nord du pays, avec le phénomène Boko Haram, et puis dans le nord-ouest-sud-ouest, le phénomène d'Ambazonie. Donc tous ces jeunes qui sont déscolarisés, qui se donnent à un certain nombre de choses, utilisent beaucoup ces substances parce qu'ils pensent qu'ils sont invulnérables avec d'autres substances, et ils pensent qu'ils peuvent faire la guerre, ils peuvent faire le djihad, ils font un peu de tout en pensant que rien ne peut leur arriver. Et nous avons ces phénomènes ces derniers temps où des jeunes ont agressé mortellement d'autres, ils les ont poignardés, et ça fait que la société est en train de s'émouvoir et on commence à agir, parce que la communauté urbaine, pendant la journée du 11 février, a essayé de faire une communication auprès de ces jeunes, auprès des familles, des parents, pour attirer leur attention que nous avons vraiment un problème de santé publique.
Docteur Jean-Louis Jon, je m'adresse aussi au docteur Carole Sérénie qui est avec nous en studio. On a un témoignage sur notre page Facebook, c'est Koku qui est au Togo à Kpalimé, on n'a pas réussi à le rejoindre au téléphone, alors je vais vous lire son message. Koku a 32 ans, il est maçon carreleur, parce que vous parlez d'une addiction, on va dire, à des fins, on va dire, récréatives, même si ça n'a rien de drôle. Mais là, c'est quelqu'un qui souffre, puisqu'il est maçon carreleur, il a des douleurs dues à son travail, et pour se calmer, il y a 3 ans, il a commencé à prendre du tramadol. Aujourd'hui, j'en prends tous les jours, sinon je me sens faible. J'ai essayé d'arrêter sans succès. Y a-t-il un moyen de sortir de cette dépendance? Docteur Jean-Louis Jon, il y a donc ce phénomène de prise de drogue tramadol, mais il y a aussi le phénomène de prise d'antidouleur tramadol. La dépendance, on va dire au bout du compte, est la même. Mais si cet auditeur qui nous appelle Koku, donc du Togo, a un véritable problème de douleur, c'est qu'il fallait aussi à la base prendre en charge cette douleur.
Ça c'est vrai qu'on peut prendre en charge. Vous savez aussi, comme je vous disais, que la plupart des gens qui font des métiers difficiles, les creuseurs de sable, les maçons, un certain nombre de choses, ils pensent qu'ils peuvent aller au-delà de la douleur, ils pensent qu'ils peuvent être stimulés par rapport à ces substances. Les jeunes les prennent aussi en pensant qu'ils peuvent avoir des performances sexuelles, et c'est pour ça qu'on prend ces choses. Après, lorsqu'on est dépendant, ça devient difficile. Et ils vont pas beaucoup auprès des soignants pour essayer de les aider, parce que on peut apporter une aide médicale, mais très peu viennent nous voir.
Mais docteur Jean-Louis Jon, vous savez bien aussi que c'est pas toujours facile d'avoir un psychiatre en Afrique, c'est pas toujours facile non seulement d'en avoir les moyens, mais d'avoir un petit peu l'idée qui nous fait y aller, savoir que cette personne va nous aider à trouver la solution. C'est forcément plus compliqué aussi en fonction du contexte.
Ça c'est vrai. Ça, c'est une réalité, parce que ici en Afrique, même surtout au Cameroun, voir un psy, c'est que vous êtes un peu gogol, vous êtes un peu...
On est fou, c'est ça, on est classé fou.
On est classé fou, alors ça fait un facteur limitant par rapport à un certain nombre de choses. Mais beaucoup de psychologues sont formés par rapport à la prise en charge pour essayer. Mais même à un médecin généraliste, beaucoup ont la formation, mais beaucoup de personnes, en fait... En Afrique, quand je vous parlais avant de l'alcool, on est consulter un médecin, c'est qu'on est fragile, on ne peut pas, parce que c'est souvent des consommations en groupe, pas toujours individuelles.
On va tout de suite donner la parole à un auditeur de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Ce qui permet parfois aussi de remettre quelques idées en place, d'aller contre certains préjugés. Darrel, bonjour.
Bonjour, Priorité Santé, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors, vous êtes en ligne du Congo de Brazzaville, on vous écoute, Darrel.
D'accord. J'ai été témoin de plus de 3 fois d'une crise de convulsion avec la même personne après avoir consommé abusivement les produits Tramadol. Alors, ma première question est donc la suivante. Comment expliquer cette addiction, sachant qu'elle a des effets néfastes, et comment y remédier quant à sa désintoxication? Et j'ai aussi une dernière question. Ici, au Congo, Brazzaville, beaucoup de personnes, hein, des jeunes comme les vieux, utilisent les produits Tramadol comme des aphrodisiaques. Alors, ma dernière question, c'est de savoir comment un opiacé, qui à la base est un produit qui contient de l'opium, peut être considéré comme un aphrodisiaque. Et quels conseils pouvez-vous nous donner pour guérir de cette addiction.
Alors vous dites c'est utilisé comme un aphrodisiaque, mais ça ne veut pas dire que c'est un aphrodisiaque, docteur Sereni.
Oui, alors là, ça c'est assez facile de répondre, car c'est pas du tout aphrodisiaque les opiacés, c'est anaphrodisiaque. En fait, ça induit même une insuffisance testiculaire à la longue, c'est-à-dire que les hommes qui en consomment régulièrement vont avoir un taux de testostérone qui va baisser. Ça c'est absolument démontré, et en réalité, plus ils en consomment, moins leurs performances sont bonnes. Comme ça, c'est facile de répondre parce que vraiment, c'est une erreur totale. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette erreur-là? Parce que tous ces médicaments-là, et même les antalgiques comme le paracétamol, induisent une certaine indifférence. Comme le disait fort bien le psychiatre tout à l'heure, les gens se pensent invulnérables. Ils sont pas invulnérables. Ils ont même pas tellement moins de douleur que les autres. Simplement, ils sont indifférents à la douleur. Ils s'en fichent. Donc, ils ont l'impression que tout est possible. C'est comme quelqu'un qui est ivre. Il pense que tout est faisable, tout est possible. Et c'est comme quelqu'un qui est sous benzodiazépine. Et alors, en réalité, c'est complètement une illusion. C'est-à-dire que, un, ils sont pas invulnérables. Deux, ils sont pas plus meilleurs performants que sur le plan sexuel, au contraire. Et trois, en fait, ils souffrent pas tant que ça, moins que les autres. C'est purement un phénomène de...
Un voile de fumée.
Voilà, un voile de fumée.
Alors justement, autre question de Darrel, il s'interrogeait sur la désintoxication. Comment on fait pour arrêter? On va dire que c'est la grande question.
Alors c'est une énorme question, et c'est un peu le même problème que celui que vous évoquiez tout à l'heure du monsieur qui avait des douleurs et qui était devenu dépendant au tramadol. C'est que c'est très difficile. C'est difficile la désintoxication. On y arrive, mais il faut être entouré. Et il faut se faire aider, ça c'est sûr. Le tramadol, c'est un opiacé faible, donc il n'y a pas tant que ça de risque de syndrome de sevrage traumatique en diminuant progressivement.
Ça veut dire ces malaises, ces convulsions, ces suées, cette grande douleur physique
qu'on peut avoir avec la morphine. Alors, on peut l'avoir si on arrête brutalement, ou si on peut avoir des convulsions si on est fragile de ce point de vue-là. Mais globalement, on peut y arriver physiquement. Maintenant, psychologiquement, c'est très dur. Et sur le plan de la douleur, c'est très dur. En réalité, c'est une douleur de rebond. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, le travailleur qui avait des douleurs, maintenant, quand il arrête le tramadol, ce dont il souffre, c'est du manque de tramadol, et pas tellement de ce qu'il avait avant. Donc, en fait, il faudrait à la fois quelque chose, un contexte qui puisse le rassurer. Quelque chose comme l'hypnose, c'est idéal pour ça, parce que ça aide énormément à voir les choses différemment. Et puis, bien entouré, et puis le sport. Ça, c'est important, une activité physique raisonnable.
C'est peut-être plus à la portée que dans certaines régions du monde que l'hypnose. Faire une activité physique, faire du sport, c'est bon.
C'est très très bon, et en particulier pour le travailleur de force, la personne qui justement est maçon, carreleur, fait des travaux. En fait, le fait de pratiquer une activité physique à côté raisonnable, par exemple la natation. La natation, c'est super pour ça, parce que ça va lui permettre d'avoir moins mal, et ça va lui permettre aussi d'avoir les muscles qui vont se détendre, et ça ira beaucoup mieux. Des choses comme ça, ça marche. Mais l'autre chose aussi, c'est ce que j'entendais, je me dis qu'il faudrait que les médecins généralistes soient formés à ça, qu'ils puissent bien conseiller leurs patients, qu'ils puissent leur dire ne prenez pas du tramadol au-delà de 8 jours pour un lumbago, pour une douleur articulaire, ça ne sert à rien, ça va vous rendre malade, parce que vous rajoutez une autre maladie en fait.
Alors on va saluer Darrel, hein, qui était donc en ligne du Congo, de Brazzaville. On vous souhaite une très très bonne journée, Darrel au Congo. On poursuit notre échange, on est toujours en ligne avec le docteur Jean-Louis Jon. Il y a un aspect sur cette consommation du tramadol qu'on n'a pas abordé, qui est essentiel, c'est le coût. Est-ce que ça coûte cher justement d'aller se procurer comme ça dans la rue ces cachets d'antidouleur?
Ah oui, parce que nous, on l'appelle ici la drogue du pauvre. Mmh. Parce que ça coûte dans les 25 francs CFA, 100 francs CFA.
Donc, c'est pas cher.
Vous voyez que c'est pas cher. C'est donné à tout le monde. Toutes les bourses peuvent y aller. Nous avons aussi un problème de précocité au Cameroun, parce qu'on a fait une étude l'année dernière où on s'est rendu compte que près de 12 millions d'enfants de 12 à 13 ans ont déjà pris la drogue.
Donc c'est très 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 précoce. Et sur un autre
aspect,
docteur Carole Sérigny, un autre aspect, c'est sur l'aspect, on va dire, je mets des guillemets, légal du produit, même si là c'est acheté dans la rue pour le cas du Cameroun comme on l'a entendu, sur l'impression de ne pas être dans une transgression morale, légale, est-ce que ça facilite la prise de ces antidouleurs? On dit finalement, c'est un médicament, ce n'est pas une drogue, là je mets des guillemets partout parce que ce n'est pas la réalité.
Oui, c'est le même problème avec les benzodiazépines, c'est-à-dire que c'est un médicament qui est prescrit, donc après tout, ça peut pas être si mauvais, ça peut pas être si dangereux. En fait, c'est si mauvais et si dangereux. Il faudrait vraiment, vraiment. Alors, on essaye de le faire maintenant en mettant des restrictions, mais il y en avait pas du tout avant. Moi, je me souviens d'avoir vu des gens qui prenaient des médicaments de type benzodiazépine pour dormir depuis 10 ans, 15 ans. Ça ne sert à rien. En plus, depuis 15 ans, ça ne sert plus à rien. Et puis, ça déculpabilise complètement. Du coup, bon, alors c'est pas grave. C'est même le médicament de mamie, pourquoi on le prendrait pas, hein?
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a cette gestion de la douleur. Docteur Jean-Louis Jon, pour continuer sur le cas particulier du Cameroun, il y a quelque chose qui est important aussi. C'est que, par contre, si certains prennent, on va dire, du tramadol à tort et à travers, pour des patients qui souffrent réellement, certains praticiens en Afrique ont, par contre, énormément de réserves à prescrire de la morphine pour face à une douleur véritable, à une douleur qui nécessite une prise en charge. Il y a, en fait, ce grand écart entre, on va dire, des malades dans des phases de maladie très avancées qui nécessitent vraiment une prise en charge de leur douleur, qui sont laissés de côté, et puis cette accessibilité si facile à des médicaments dans la rue. Il y a un petit peu un équilibrage à faire, selon vous, entre les deux.
Oui, vous posez là un problème très important et très préoccupant, parce que d'abord, la morphine, c'est pas évident d'en avoir ici, dans nos pays. C'est très, les gens sont très frileux, que ce soit les pouvoirs publics, et souvent même en pharmacie, c'est difficile d'en trouver. Parce que là, vraiment, on fait. Mais par contre, les autres, comme les morphinomimétiques de synthèse, c'est facile à en avoir. Mais la plupart du temps, lorsque les médecins le donnent, c'est toujours à des doses très, très faibles. Parce que aussi, il faut aussi dire la perception des Africains par rapport à la douleur. On pense que lorsqu'on se plaint, c'est qu'on est trop fragile, on est trop faible. Il faut résister par rapport à la douleur. Donc, avant de recourir aux problèmes médicamenteux. Mais les morphinos, c'est vraiment très difficile à en trouver.
Est-ce qu'on comprend bien, en vous lisant, docteur Carole Sérigny, là on parle de la morphine, c'est vraiment que ces antidouleurs ne sont pas interchangeables. Un antidouleur ne vaut pas un autre en fonction, évidemment, de la souffrance ressentie, de la pathologie concernée.
Les antidouleurs ne sont pas interchangeables et surtout, il y a des médicaments qui agissent sur certaines douleurs et qui ne sont pas des antalgiques, qui ne sont pas des morphiniques, qui ne sont pas de la même famille. Par exemple, si vous avez eu un zonas, qui est une pathologie très fréquente, en fait, les morphiniques servent strictement à rien et c'est plutôt d'autres types de produits qui vont être efficaces. C'est pareil pour la migraine, par exemple. Dans la migraine, c'est ridicule de prendre un morphinique. Ça ne marche pas.
Est-ce que c'est prescrit?
C'est prescrit, malheureusement. C'est prescrit. Et c'est prescrit à tort.
Juliette Bourde, quand vous prenez conscience de la situation de dépendance de votre fils, donc il est parti de cet établissement scolaire, il y a eu une consultation en psychiatrie, on lui a redonné une prescription d'anxiolytique, c'est bien ça. Oui. Et vous décidez ensuite de le faire hospitaliser, centre spécialisé pour traiter les addictions, désintoxication, il y en aura d'autres. Comment ça se passe, cette désintoxication? Qu'est-ce qu'il en dit, votre fils?
Il n'a pas tellement le choix, parce qu'il voit bien qu'il y a un problème. Ça se passe à peu près toujours de la même façon. On redonne aux patients des benzodiazépines en grande quantité pour les diminuer tout doucement, de façon à ne pas créer de crise d'épilepsie, justement, ou de problèmes. Quand on n'est pas majeur et qu'on ne souhaite pas rester, on vous renvoie votre enfant. Donc, c'est ce qui s'est passé à peu près à chaque fois, parce qu'il n'avait aucune envie. Il était dans un certain déni, évidemment. Il ne se reconnaissait pas au milieu de tous ces grands drogués, puisqu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas de centre spécialisé pour les adolescents qui sont addicts aux médicaments. C'est toute drogue confondue, tout âge confondu. Donc, pour lui, c'était très compliqué.
Justement, Juliette Bourde, est-ce que vous diriez que la méconnaissance de votre fils des produits a contribué d'une certaine manière à accroître encore sa fragilité? On voit certains toxicomanes qui ont une certaine connaissance, voire expertise du produit. Hein. Ils connaissent les quantités, ils connaissent, bien sûr, ce ne sont pas des chimistes, mais ils ont une connaissance. Votre fils, il était novice, il était comme un agneau dans un champ de tir là-dedans.
Mais il se renseignait beaucoup. Donc il avait quand même une certaine connaissance pour son âge. La première fois qu'on a vu ce psychiatre ensemble, il connaissait le nom de toutes les molécules, il connaissait les grammages, il connaissait les milligrammages, il connaissait tout ça, ce que moi, non, je ne connaissais pas. Donc il connaissait les risques, il connaissait les associations dangereuses, il savait que benzo et opiacé, c'était extrêmement dangereux. Il savait tout ça malgré tout. Je crois que les molécules sont tellement puissantes que c'est extrêmement difficile, sans avoir une certaine force de caractère et une maturité qu'on n'a pas à 18 ans, de s'en débarrasser. Extrêmement compliqué.
Docteur Jean-Louis Jon, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes spécialiste dans la prise en charge des patients alcoolodépendants et usagers de drogue. Quel protocole, quelle prise en charge, quelles étapes est-ce que vous proposez pour décrocher?
Alors là, je vais vous étonner en vous disant que pour les problèmes de tramadol, franchement, nous les voyons que quand il y a des conséquences. Il n'y a pas souvent de demande, parce que souvent les parents sont même étonnés quand ces enfants arrivent à ce niveau-là. Parce que nous voyons quand il y a des crises de convulsions à l'école, quand il y a des violences scolaires, et souvent la plupart du temps, quand ils arrivent, personne n'accepte. Donc du coup, la demande, nous avons très peu de demandes.
Quand vous dites personne n'accepte, c'est-à-dire que, excusez-moi, quand vous dites personne n'accepte, ça veut dire que les parents refusent qu'un psy s'en mêle pour aider?
Mais disons que les parents sont étonnés, ils sont souvent les premiers étonnés que mais comment ça peut leur arriver.
Ils sont incrédules.
Les enseignants en parlent, mais oui, ils sont vraiment incrédules, ils ne peuvent pas soupçonner leur enfant, malgré que souvent, les enseignants attirent leur attention, mais ils vont toujours vous dire que leur enfant, vous savez, on a l'enfant imaginaire souvent dans la tête, et la réalité fait en sorte que nous avons beaucoup de difficultés. Les demandes ne sont pas là. Pour les rares qui font une demande, nous essayons de les assister, nous essayons de leur permettre de décrocher en leur donnant des conseils, en mettant des psychologues à leur disposition et pour qu'une demande puisse émerger et qu'on la prenne en compte et qu'on essaye d'aider cet enfant.
Docteur Carole Sereni, vous êtes neurologue, donc centre de prise en charge de la douleur. Vous travaillez avec d'autres praticiens multidisciplinaires pour essayer de lutter donc contre cette douleur chronique. Justement, qu'est-ce que ça change d'aborder la douleur par plusieurs axes, plusieurs angles d'attaque?
Je pense que c'est très important. Moi, en tant que neurologue, finalement, mon expertise, à part les maladies neurologiques douloureuses comme le zona ou la migraine, c'était surtout d'expliquer ce que c'est que la douleur et d'essayer de faire comprendre aux gens ce que c'est que la douleur et pourquoi ça marche pas de prendre un médicament à un moment. C'est pas comme ça que ça va marcher, ça va pas arrêter la douleur. Donc, c'était mon truc. Maintenant, on avait aussi un rhumatologue parce que énormément de douleurs sont d'origine rhumatologique, justement, comme les lombalgies, comme toutes les douleurs du travail et tout ça, c'est contre. On en avait un psychiatre parce que c'est impossible de nier la dimension psychiatrique en général, la dimension sur l'humeur, l'angoisse, la dépression, souvent réactionnaire, et puis aussi l'importance de la vie antérieure et des difficultés. Donc tout ça, c'était très important. On avait également une hypnothérapeute pour nous aider dans la prise en charge. Donc c'est très important parce que justement, c'est un travail. Sortir de la douleur chronique, ça se fait pas instantanément. Ça se fait pas avec il n'y a pas de pilule qui vous sortira de là. Il faut petit à petit prendre conscience qu'il faut retrouver une santé, mais c'est ce que les gens veulent d'ailleurs. Profondément, les patients, ils venaient pas nous voir pour dire « je veux plus souffrir », ils venaient nous voir pour dire « je veux vivre normalement, je veux retrouver une vie digne et normale ». Et c'était ça qu'il faut leur montrer, il faut leur montrer que c'est possible, que ça va être un chemin, qu'il va falloir associer plusieurs techniques souvent, qu'il va falloir du temps, mais que ça marche. Et ça marche réellement.
Dans le cas de votre fils, Juliette Bourde, est-ce que vous parleriez d'un échec thérapeutique? Il a eu des soins, il a rencontré de multiples praticiens. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, quand vous regardez avec le recul, j'imagine que vous êtes renseigné sur cette prise en charge, des pistes qui n'ont pas été explorées, des choses qui n'ont pas été faites?
À l'époque, non. Mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal d'erreurs, mais en fait, c'est ça qui a été dramatique. Et puis, il faut que le patient soit très volontaire pour se soigner.
L'implication est déterminante.
C'est sûr. Et c'est vrai qu'à 17, 18 ans, c'est compliqué de trouver cette force-là, en tout cas ce chemin-là. Donc, voilà. Et puis, les médecins, dans leur décision de prescrire, aujourd'hui sont un peu plus informés, un peu plus alertés, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces sujets d'opiacés en France, enfin, et que du coup, il y en a pas mal qui m'ont contacté pour me dire on change pas mal notre façon de travailler, effectivement, on arrête les prescriptions hâtives, parce qu'ils ne savaient pas, en fait.
Il y a ce contraste, hein, quand on parle de cette crise d'opiacés aux États-Unis, on voit les chiffres effarants. Oui. Quand on vous lit là, on est choqué parce que c'est vraiment un parcours singulier. Un adolescent, la vie d'une famille, on rentre dans la famille, la dépendance. Est-ce que vous avez eu le sentiment que votre fils était considéré comme tel, comme un malade, comme un patient ?
Non. Quand il faisait des cures, oui, parce qu'il était au milieu des autres, donc forcément. Sinon, il vivait ça assez seul, en fait. Les médicaments sont des drogues qui sont très différentes des autres parce que on en a un peu honte. C'est quelque chose de différent. C'est pas quelque chose de festif, de week-end avec les copains où on va prendre des trucs qui sont tout aussi dangereux, mais qui, voilà. Il était assez solitaire dans cette démarche et dans cette addiction. Donc, non.
Et en ligne de doigt, là, on vous retrouve, hein, docteur Jean-Louis Jean, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics au Cameroun, tout à l'heure vous avez parlé d'une initiative au mois de février, si je me souviens bien, est-ce que ces autorités ont pris la mesure du problème ou l'on continue en quelque sorte à détourner les yeux ?
Oui, la communauté urbaine de Douala a associé à peu près tout le monde, tous les intervenants dans cette filière, pour essayer d'attirer l'attention des parents, parce qu'on avait l'impression que les parents sont en retard par rapport à leurs enfants. C'est vrai que quand les parents rentrent souvent du boulot, ils sont un peu fatigués, ça fait toujours ce qui se passe. Mais vu la violence urbaine, vu les désordres qui se passent, on a senti qu'il fallait commencer à communiquer. Et la communication pour la plupart des intervenants, pour qu'il y ait un changement de comportement et que nous tous on puisse lutter contre ce fléau qui est de plus en plus important. Au vu des saisies qu'on fait par rapport à ces médicaments qui se retrouvent dans la rue.
Alors en France, il y a eu la création d'un observatoire des médicaments antalgiques, un rapport de l'ANSM, des articles dans les journaux, des émissions spéciales à la télé. Juliette Bourde, est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà justement de ces comptes rendus médiatiques ou de ces événements, il y a une vraie prise de conscience de la population, des médecins ? Est-ce que les choses changent ?
Je trouve qu'on en parle beaucoup plus. Je trouve qu'effectivement le sujet et le problème de santé publique sont mis en avant beaucoup plus qu'avant. Moi, je suis très contactée par des familles à qui il est arrivé ou il arrive ce genre de problème et il y en a beaucoup. Donc ils sortent de leur
silence, de leur réserve et honte aussi.
Mais bien sûr. Donc ça va peut-être aider à tout ça aussi, effectivement. Puis maintenant, il y a quand même des départements jeunes addicts qui se sont créés dans les CHU où il n'y avait pas ça à cette époque-là, à mon époque, à moi. Et c'était il n'y a que 3 ans, mais il y en avait très peu. Il y avait très peu de centres pour les soigner. Enfin, les choses changent.
Alors justement, nécessité d'informer, hein, c'est notre conclusion, docteur Carole Sérigny. Également, mieux prendre en charge la douleur. Est-ce que justement la recherche avance pour une meilleure prise en charge et limiter ces tonnes de médicaments avaler parfois même à mauvais escient ?
La recherche existe. Elle n'a peut-être pas suffisamment de fonds pour réellement être à son maximum. Bon, les Américains, même aux États-Unis, où ça a quand même tué tellement de personnes, plus que la guerre du Vietnam, plus que les accidents de voiture, plus que tout ça, eh bien, les chercheurs disent qu'ils n'ont pas assez de moyens. Alors, la recherche, elle existe. Maintenant, on n'est pas encore réellement sur le point d'y arriver. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. À vous au Cameroun, docteur Jean-Louis Jean, d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes psychiatre à l'hôpital général de Douala. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, Juliette Boudre. Je rappelle le titre de votre livre, « Maman, ne me laisse pas m'endormir », publié aux éditions de l'Observatoire. Et merci à vous, docteur Carole Sérigny, neurologue, co-responsable de la consultation multidisciplinaire de la douleur chronique à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, auteur de l'ouvrage « Douleur chronique et opiacés aux éditions du Cerf. L'alimentation, la santé, on en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous, Stéphane Besançon. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. On parle maintenant de cette nouvelle commission internationale qui a été mise en place pour aborder l'alimentation de façon transversale, c'est-à-dire en parlant santé, mais en prenant compte aussi de l'avenir de la planète. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, Stéphane, cette commission et son travail ?
Alors, cette commission internationale été mise en place par le journal scientifique très connu, le Lancet, et EAT, E-A-T, qui est une ONG suédoise qui travaille sur la transformation des systèmes alimentaires. Alors, cette commission s'appelle en anglais The EAT Lancet Commission on Food, Planet and Health, qui se traduit en français par la Commission sur l'alimentation de la planète et la santé. Ce titre n'est pas anodin, il montre la volonté de cette commission de travailler sur les systèmes alimentaires de manière globale pour parvenir à un consensus scientifique qui va définir un régime alimentaire sain à la fois pour la santé, mais durable pour la planète. Alors, les chercheurs qui composent cette commission ont réalisé le premier examen scientifique, j'allais dire complet, afin de proposer justement cette alimentation saine à partir d'un système alimentaire durable et d'actions qui peuvent accélérer les changements de système alimentaire. Alors ceci a vraiment pour but à la fin de proposer quelque chose pour la population qui respecte au mieux l'environnement et plus largement la planète dans une période où on parle beaucoup de cette question de alimentation durable.
Alors Stéphane, s'il fallait retenir les principaux résultats qui ont été publiés par cette commission ?
Alors d'abord, il y a un constat qui est extrêmement important, c'est qu'en 2050, il y aura 10 milliards de personnes qui vivront sur Terre. Et avec cette croissance de la population, si on souhaite limiter l'impact environnemental de notre modèle alimentaire et donc le réchauffement climatique, mais aussi si on veut sauver plus de 11 millions de personnes par an de décès dus aux deux formes de malnutrition, à la fois la sous-nutrition et la surnutrition, et bien il va falloir adopter le plus rapidement possible des régimes alimentaires qui sont plus durables. Alors ils devront absolument prendre en compte ces régimes, le rôle majeur de l'agriculture extensive, en particulier de l'élevage du bétail, qui a un rôle aujourd'hui, on le sait, dans le changement climatique, la destruction de la faune, la pollution des rivières et des océans. Et ensuite, alors ça c'est le constat global de la commission. Il y a eu un constat plus spécifique lié au régime alimentaire. Il apparaît très 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 clairement qu'à l'échelle mondiale, il va falloir réduire très fortement la consommation de viande rouge et de sucre, et en même temps doubler la consommation de fruits, de légumes et de noix. Alors, ce qui est important, c'est qu'on, de manière globale, ils recommandent de diminuer par deux la consommation de viande, mais on voit que si on regarde la carte un peu des continents, on a des choses très différentes, et notamment, par exemple, pour les Nord-Américains, la consommation de viande devrait diminuer de pratiquement 84%, et en même temps, que ces populations-là devraient consommer 6 fois plus de légumes et de légumineuses.
Alors, du côté des régimes alimentaires proposés, qu'est-ce qu'on peut voir pour atteindre, justement, ces objectifs ?
Alors, d'abord, c'est un régime modéré en calories, c'était autour de 2500 calories, donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas trop manger, il faut manger raisonnablement. Ensuite, c'est un régime qui va être basé en grande partie sur la consommation de fruits, de légumes et de légumineuses. Mais ce n'est pas du tout un régime végétarien puisqu'il reste la partie viande rouge, mais qui est recommandée à une portion, une fois dans la semaine, et pour le poisson, 2 fois dans la semaine. Il contient aussi 1 verre de lait par jour, 1 ou 2 œufs par semaine, ainsi que du fromage et du beurre, bien sûr en quantité modérée. Et la partie centrale de ce régime, vraiment, c'est composé par les fruits et les légumes, où il y a une recommandation d'augmenter très fortement la consommation, et faudrait que ça représente la moitié de chaque plat tous les jours, et qu'un tiers des plats doivent être constitués de céréales complètes. Alors il est important de noter aussi que la majorité des protéines de ce régime doivent provenir des légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches. Et toutes ces recommandations, ce qui est intéressant aussi dans ce rapport, c'est qu'elles montrent qu'on peut préparer beaucoup de plats, et que c'est pas quelque chose de restrictif, c'est quelque chose qui peut être à la fois bon pour l'environnement, bon pour la santé, mais bon aussi pour le goût.
Alors justement, pourquoi ces légumineuses ont-elles une place aussi importante dans ce régime qui est donc préconisé ?
Alors, comme le rappelle l'Organisme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, les légumineuses sont une excellente source de protéines, et donc ils vont remplacer les protéines de la viande si on diminue la consommation de la viande. Donc ça, c'est sur le plan alimentaire. Après, c'est aussi une production qui a un bilan carbone qui est bien meilleur que celle de la viande, et aussi, on oublie souvent que en moyenne, il faut 13 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf, compte 50 litres d'eau pour 1 kg de légumineuses, donc là aussi avec un impact environnemental bien bien meilleur.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali et nutritionniste. À très bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Oussama Ké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous allons parler des infections et inflammations oculaires. Œil rouge, démangeaison, si vous avez une question, laissez-nous un message. 33 1 84 22 75 75, c'est bien sûr le numéro de téléphone de Priorité Santé. On se retrouve demain.
Écoutez Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.